C'est l'été, c'est le temps des randonnées. Il fait peut-être un peu chaud, mais en montagne, il fait juste un demi-degré en moins. Mais si vous partez en randonnée, vous allez rencontrer des cairns hein, pour vous montrer le chemin. Et puis, vous allez prendre votre sac à dos. Moi, je suis très fier de mon sac à dos. Vous savez pourquoi je suis très fier de mon sac à dos? Parce qu'il y a marqué Vésubie dessus. Et moi, je suis fan de la Vésubie, de Saint-Martin-Vésubie. Et surtout des enfants à la montagne, à Saint-Martin-Vésubie. Et pour partir en randonnée, il faut être sûr d'avoir ce qu'il faut dans son sac à dos, au cas où les choses se passent pas toujours aussi bien qu'on ne l'avait imaginé, au cas où vous deviez y passer la nuit dans une crevasse, dans un ravin, dans un fossé, dans une combe. Alors il faut évidemment la gourde. Il faut évidemment aussi la trousse de secours avec du mercurochrome, comme on disait à l'époque. Enfin, tout ce qu'il faut, des bandages, etc. Il faut également une petite cordelette pour vous sortir peut-être. Bon, elle est un peu courte celle-là, mais pour vous sortir d'un mauvais pas. Et il faut aussi une boîte d'allumettes pour faire éventuellement un petit feu pour brûler le sanglier que vous auriez chassé. Il faut le couteau suisse pour tuer le sanglier ou pour d'autres utilisations avec tout ce qu'il faut dessus, la lime à ongles, le tire-bouchon, etc. Et puis aussi, cette petite enveloppe, alors ça se déplie, c'est une couverture de survie. Hein, pour passer la nuit quand il fait un petit peu froid, une couverture de survie très réfléchissante et isolante. Il faut un petit kit de survie quand même pour partir en randonnée. J'ai oublié, il me manque le sifflet. Le sifflet, vous savez pourquoi le sifflet? Parce que si vous appelez à l'aide avec votre voix, en 2 minutes, c'est fini. Hein, vous n'avez plus de voix. Donc un sifflet. Vous pouvez tenir toute la nuit avec votre sifflet pour annoncer. Et puis, j'ai oublié aussi la barre chocolatée. Bon, voilà. C'est un petit peu la même situation pour les destinataires de la lettre ou l'épître que Pierre, l'apôtre Pierre, écrit dans le premier siècle de notre ère aux chrétiens qui sont dispersés dans l'Empire. Alors on ne les appelle pas, ce sont pas des randonneurs spécialement, ces destinataires, mais ce sont des résidents temporaires ou des hôtes de passage, des citoyens à l'époque, parce qu'ils sont chrétiens de seconde zone, qui n'ont pas tous les droits, qui vivent au quotidien, des soucis, des tracasseries administratives, sociales, ils sont empêchés de faire carrière. Et Pierre va passer sa lettre à les encourager. Il va les encourager à être des pierres vivantes, par exemple, dans le monde, en s'approchant de Christ, le vivant. Mais pour être vivant, enfin, il faut rester vivant, sinon c'est mort, comme on dit. Et il va, à la fin de sa lettre, leur donner en quelque sorte le petit kit de survie pour survivre dans cet environnement pas franchement hostile, mais très compliqué. La persécution officielle n'a pas encore commencé, mais c'est une autre forme de persécution, plus latente, lancinante, on va dire. Un kit de survie, donc, qui pourrait nous être utile à nous qui, nous qui partons plus ou moins en randonnée, en tout cas dans une randonnée de la vie. Alors, on va lire le passage maintenant. Ah, j'ai oublié. Ouais, et leur donne quelques encouragements pour la survie. Voilà le texte. Donc, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, nous le croyons, écrit cela à eux, à l'époque, et à nous, maintenant. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération ou de sobriété. Et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et vos sœurs, dispersés à travers le monde, connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et le premier élément de ce kit de survie, on pourrait le comparer à une corde, pas la petite cordelette, mais une vraie corde, et il s'agit de la confiance, que l'on voit apparaître au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Tu peux revenir en arrière ? Voilà. « Car lui-même prend soin de vous. » Il est intéressant de noter que le mot « souci » dans l'original vient d'un verbe dont la racine veut dire « diviser »,« séparer ». Et donc, l'étymologie est utile pour nous rappeler que si nous ne prenons pas garde, les soucis vont finir par nous séparer de Dieu, de la vie qu'il voudrait que nous ayons, de la vie abondante dont Jésus parle. Les soucis finissent par nous séparer de cette vie abondante. Les soucis et la séparation de cette vie abondante, la séparation d'avec Dieu, c'est la mort, ou on va dire c'est mortel. Et donc, c'est bien une question de survie dont il est question ici, pardon pour la répétition. Alors, il faut remarquer que le verset 6 qui parle d'humilité est tout à fait lié au verset 7 qui nous parle de confiance. On pourrait lire « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Se décharger est un participe présent, un peu de grammaire, du verbe principal qui est « humilier ». Se décharger sur Dieu de ses soucis, c'est donc une expression ou une marque de notre humilité. Faire confiance, c'est reconnaître humblement nos limites et reconnaître que l'on a besoin de Dieu dans sa vie. Confiance et humilité. Oui, se décharger sur lui de tous ses soucis est un geste d'humilité. Pourquoi ? Parce que je lâche prise, tout simplement, par rapport à mes soucis qui m'inquiètent et qui me donnent aussi l'impression, parfois, mes soucis de contrôler ma vie. Je me fais du souci parce que je voudrais contrôler ma vie. Se décharger est donc un vrai signe d'humilité. Et à l'inverse, on peut se demander si les grands anxieux ne sont pas en même temps de grands orgueilleux. Des orgueilleux qui ne veulent pas faire confiance en Dieu pour leurs propres affaires et qui ne veulent pas en fait lâcher prise ou lâcher les rênes de leur vie. De cet orgueil où l'on refuse de faire confiance à quelqu'un d'autre, fût-il Dieu ? Un peu comme le chat dans le chat, hein, le bien connu, cette icône belge. Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. Je ne dis pas que tous les anxieux sont des orgueilleux. Il y a toutes sortes d'anxiétés. Mais l'idée me semble intéressante malgré tout et forme une sorte d'appel à tous les anxieux du monde. Laisse tomber ta fierté mal placée. Laisse tomber le désir ou la volonté de vouloir tout gérer toi-même. Décharge-toi sur Dieu, mon ami, et fais-le humblement. Mais tout cela, cette confiance, cette humilité, n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas cette promesse, la promesse du soin de Dieu. Car Dieu prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ce soin de Dieu pour chaque être humain est un trait distinctif de la foi chrétienne. Dans beaucoup, si ce n'est la totalité des religions et des cultes, tous les efforts des adeptes sont faits pour éveiller l'intérêt de la divinité par des prières, par des sacrifices, par des cérémonies en tout genre, par des rites. Et le résultat est incertain. Comment savoir si on a obtenu la faveur de la divinité ? Qui peut dire que cette divinité capricieuse va s'intéresser à moi ? Mais dans la foi chrétienne, le soin de Dieu est là. Il est de fait, il n'est pas à conquérir, car il fait partie de la personnalité même de Dieu. Dieu le Père est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Le Dieu de la Bible, révélé en Jésus-Christ, prend soin de la personne humaine dans toute sa totalité. Et notre vie peut se baser sur cette confiance, que Dieu lui-même prend soin de nous. C'est le fondement. Par contre, la question se pose de savoir si cette vérité de la foi, que Dieu prend soin de nous, résiste à la réalité de la vie. Ah non, en fait. Hop. Est-ce que Dieu prend soin de moi quand le médecin annonce un cancer ? Est-ce que Dieu prend soin de moi quand un être proche disparaît trop tôt ? Est-ce que Dieu prend soin de moi quand je cherche un travail depuis 2 ans et que rien n'arrive ? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions, mais je risque humblement une idée, en quelques mots, 3 petits mots à ajouter à « Dieu prend soin de moi » à la fin, ou « finalement ». Et le « finalement » dans les 2 sens. Vous savez, parfois on dit « finalement ». Quand j'y regarde de plus près, ou d'une manière rétrospective, quand on revient sur les événements qui ont été difficiles, on peut dire « oui, en fait, Dieu a pris ». Il a pris soin de moi, même si je ne l'ai pas vu au moment même. In fine, je peux le dire, Dieu prend soin de moi. Et c'est le témoignage de nombreuses personnes qui sont passées par des moments terribles ici. Et moi, j'ai eu une dépression en 2020-2021, une grave dépression. Je suis content d'être encore parmi vous ce matin. Et je peux dire, finalement, rétrospectivement, quand j'avais l'impression d'être au bord du gouffre ou même dans le gouffre, Dieu a pris soin de moi. Finalement, quand je regarde, et si je suis là, c'est parce qu'il a pris soin de moi. Mais finalement, ça peut vouloir dire aussi, dans un deuxième sens, à la fin des temps et de mon temps ici-bas, Dieu prend soin de moi à la fin. Et on pointe vers l'espérance du salut, de l'espérance chrétienne. Nous serons avec lui, réunis avec un nouveau corps, à le louer, à le chanter pour une nouvelle vie faite d'aventure sous un nouveau ciel où la justice habitera, où l'amour sera sans entrave, où le deuil aura pris fin, où les pleurs ne seront plus, comme dit le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, une prise en charge totale, une prise en soin total. Oui, in fine, finalement, Dieu a pris et prendra soin de moi. Je peux lui faire confiance. Mais pour que cette confiance puisse se concrétiser dans ma vie, et on est là pour que on puisse vivre aussi les choses de la foi au quotidien, il faut parfois renouveler sa confiance. Je prends cet épisode du roi David dans 1 Samuel 30 qui était dans une situation très angoissante. Et dire ça, c'est presque un euphémisme. Alors, le roi David n'a pas toujours été le roi glorieux. Il a eu des débuts un peu timides. À un moment, il est vraiment en mode survie. Surviving. pas seulement dans son leadership, mais sa vie elle-même est en jeu. La troupe de mercenaires, il a commencé par une troupe de racailles, David, des gens que personne ne voulait, qui étaient là que pour l'argent ou pour la gloire. Et cette troupe de mercenaires s'est retournée contre lui et veut le lapider, le lyncher. Alors qu'est-ce qu'il fait ? C'est assez incroyable, mais David va simplement puiser de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais il a probablement mis quelques jours pour ça, pour renouveler sa confiance. Il a peut-être pris sa guitare et a commencé à chanter quelques psaumes qu'il avait lui-même composés. Il a sûrement prié la nuit, médité, il a sûrement repensé ou reconnu la main de Dieu dans sa vie, comment il avait été choisi alors qu'il était le dernier fils, comment il a vaincu Goliath. Et puis, il a dû se dire, si je suis ici, Seigneur, c'est grâce à toi ou à cause de toi. Je sais que tu es puissant, que tu as promis de prendre soin de moi, alors mes soucis, avec cette troupe qui veulent me lyncher, je te les remets. Mon avenir est dans ta sûre main, mon avenir immédiat et mon avenir éternel est en toi. Que peuvent me faire les hommes ? Et je cite des psaumes. C'est ce que David a dû se dire et sortir de ce face-à-face avec Dieu, de ce renouvellement de sa foi et de sa confiance. David a renouvelé ses forces morales et spirituelles. Alors on ne souhaite pas, même à son ennemi, de vivre des situations comme celles qu'a vécu David, mais nous avons parfois des moments, besoin de ces moments critiques dans la vie, des moments d'angoisse, et je ne vous les souhaite pas, hein, mais des moments d'incertitude, des moments de déception pour pouvoir venir humblement devant Dieu, pour pouvoir nous humilier sous la puissante main de Dieu, non pas pour nous rendre minables, mais pour nous faire lâcher prise et de renouveler en lui notre confiance. Nous avons parfois besoin de ces moments-là. Et finalement, ces moments-là ont été bénéfiques pour la confiance et notre foi. Le deuxième élément du kit de survie, c'est la vigilance. Et on pourrait comparer... On pourrait comparer avec une paire de jumelles qui ne fait pas partie du kit de survie habituel pour les randonnées. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est la troisième fois que Pierre parle de modération, de sobriété et de vigilance. Mais cette fois, la menace est précisée et même personnalisée. Il s'agit de l'adversaire, Satan, en hébreu veut dire adversaire. Le diable qui ressemble à un lion rugissant, prêt à dévorer celui qui tombe sous sa dent ou sous ses crocs. Et on a l'impression que Pierre sait de quoi il parle. Même si l'adversaire pour lui ressemblait plutôt à un coq qu'à un lion. Un coq qui chante trois fois. L'adversaire a tourné à la mort de Jésus, l'adversaire a tourné autour de Pierre, et Jésus, même dans l'évangile, va prier pour Pierre, parce que Satan, dit Jésus dans sa prière, est en train de le passer au crible. Oui, Pierre sait de quoi il parle lorsqu'il parle de l'adversaire, et il en appelle à la vigilance contre une certaine naïveté humaine qui consiste à dire que tout baigne, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Possible, rajoutait un philosophe, il n'y a pas de mal, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'adversité. Il y a Goethe qui disait, alors c'est une image du diable et de l'homme couché, et puis cette forme, il y a un petit morceau de lion, une gueule de lion là, je la trouve belle cette peinture. Il y a Goethe, donc l'auteur allemand qui disait, et Sophie tu peux y aller, les gens ignorent la présence du diable même quand il les a saisis à la gorge. Et Goethe a bien senti le problème avec l'adversaire, celui de refuser de reconnaître sa présence, et ça malgré l'évidence. On est pris à la gorge. Et la vigilance commence par reconnaître la présence de cette personne qui s'active autour de nous et qui cherche à nous détruire. Alors avec le diable, il ne s'agit pas de le voir partout, il ne s'agit pas de diaboliser tout le monde ou de vouloir tout exorciser à coups de crucifix, il ne s'agit pas de ça, mais simplement prendre conscience de son action, non pas dans les nuages, dans un espèce de combat d'autorité céleste, comme on peut le voir dans des romans chrétiens de science-fiction, mais prendre conscience de son action dans ma vie. La personne qu'il cherche à dévorer, c'est moi. La personne qu'il cherche à séparer d'avec Dieu, son Créateur, qu'il aime et qui prend soin de lui, c'est moi. Un dévoreur de foi, un dévoreur de vie chrétienne, voilà ce qu'est l'adversaire de Dieu. Et un retour au contexte de cet appel à la vigilance est très intéressant. Nous sommes, pour les chrétiens de l'époque, dans cette région, dans un contexte de persécution, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une persécution qui n'est pas encore violente, mais qui est plutôt latente, lancinante, les moqueries, des tracasseries, des mises à l'écart au niveau de la société. Les chrétiens à l'époque ne pouvaient pas participer aux guildes des commerçants ou des artisans, et donc leur carrière était bloquée. Et il y avait des dénonciations, et donc c'était extrêmement difficile, une souffrance au quotidien ou une adversité au quotidien, et qui peut, à un moment, amener à dire « j'arrête » au niveau de la foi. « Je fais plus confiance. C'est trop long. C'est trop dur. Où est Dieu ?» Et l'adversaire peut utiliser cette adversité au quotidien pour amener ces chrétiens à l'époque à renier leur foi. On parle d'apostasie ou de retour en arrière. À l'époque des camisards, les persécutions des protestants, on parlait d'abjuration. Il fallait abjurer sa foi. Et on est vraiment là. Et le risque est grand dans un contexte d'adversité ou de souffrance de renier la foi parce que c'est trop dur, le doute s'installe. Parce qu'il est difficile de faire partie de la minorité, parce que le monde est laïque, et si on veut réussir, il vaut mieux ne pas faire de vagues. Et malgré tout, quand on est avec Jésus dans le bateau, ça fait des vagues. Je mélange un peu les deux époques, mais je fais exprès, dans le monde d'alors, comme celui d'aujourd'hui, on est en mode survie. Au niveau de la foi, le diable cherche à dévorer ma vie de foi, la tienne aussi, et il le fait par le biais de choses un peu inentendues, comme celui de la souffrance qui peut nous rapprocher de Dieu, ou alors, si on n'est pas vigilant, nous séparer de Dieu. L'adversaire est un fin tacticien, il utilise nos faiblesses, mais parfois nos forces aussi, pour nous amener à abandonner la partie. Et quand on est chrétien, depuis quelques années, on a vu et on voit autour de soi des amis se faire dévorer par ce lion rugissant, même des amis pasteurs qui ont abandonné la foi officiellement ou officieusement, nettement ou progressivement. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils cédé? Il n'y a personne qui le sait. Et là non plus, il n'y a pas de réponse facile. En tout cas, pas de dire que nous, on est meilleurs que les autres. Et que nous serions à l'abri de ce genre de choses. Non, en voyant tout cela, on doit mettre dans son sac de randonneur une paire de jumelles pour la vigilance. Parce que, comme le dit Paul autre part, nous connaissons ses intentions de l'adversaire. Nous séparer de la vie, la vraie, la vie avec Dieu. Et on devrait prendre ces précautions. Une de ces précautions, c'est vraiment la prière. Je suis toujours surpris de voir que le couple vigilance et prière sont présentes dans la parole de Dieu. Et Jésus le dit lui-même, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible et manque de vigilance. Priez et veillez. C'est une question de survie dans la foi. Et puis le troisième élément du kit de survie, on pourrait s'apparenter à la couverture de survie. La petite enveloppe que je rêve d'ouvrir pour vous montrer. Mais c'est la résistance. La couverture de survie, la résistance. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Et ça va évidemment de pair avec la vigilance. Mais après avoir repéré l'ennemi, il faut lui résister. En face, faire bloc contre lui, ne lui donner aucun accès, aucune prise. Il ne s'agit pas de flirter avec le mal, mais de lui résister de toutes ses forces. Une autre parole de la Bible nous dit « fuyez ». Fuyez l'adversaire. Il ne s'agit pas de collaborer avec le diable, mais d'entrer en résistance, de prendre le maquis. Comme le pasteur Bonhoeffer, pendant les périodes de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été assassiné par les nazis en 45, juste 2 mois avant la libération, et qui a résisté comme peu à l'époque en Europe. On peut penser à notre cher général de Gaulle, avec le film qui est sorti et son appel à la résistance du 18 juin. Ou comme Winston Churchill, « We will never surrender ». Nous nous rendrons jamais. Et la Bible nous appelle à la résistance et à travers l'histoire de l'Église, des chrétiens protestants l'ont bien reçu et l'ont vécu dans leur corps. Marie Durand, à Sainte-Marie de la Mer, enfermée dans la tour de Constance pendant toute sa vie, pratiquement 40 ans, prisonnière de Louis XV à cause de sa foi protestante qu'on essaye de lui faire abjurer, écrivait avec ses ongles, paraît-il, sur le mur de sa cellule un seul mot, un seul verbe, et combien important, résister. Et elle y passait tous les jours pour laisser une trace dans la pierre. Résister à la tentation de renier ce qui faisait sa foi. La vie chrétienne est faite de résistance. Et il faut s'accrocher avec les dents, parfois. Et le lieu de la résistance, Sophie, c'est bien la foi. Et la foi décrite ici est bien l'attachement au Seigneur. Il s'agit de résister au diable, non pas pour devenir expert en diabologie ou en combat spirituel, mais en restant fermement attaché au Seigneur. Résistez-lui en maintenant une vie qui serait orientée vers lui, résolument vers lui. Non pas comme une girouette qui prend le vent, mais comme une boussole, toujours dirigée, orientée vers le pôle magnétique. Et c'est tellement vrai que les vents contraires, les difficultés de la vie, les circonstances difficiles, les souffrances, les tracasseries, les soucis, les inquiétudes, le travail trop lourd, les soucis trop nombreux, les problèmes à répétition, les problèmes familiaux, conjugaux, sentimentaux, la solitude pesante, les échecs répétés, les tentations trop fréquentes peuvent nous éloigner de Dieu et nous poussent parfois à abandonner la course. Mais si par la foi nous restons orientés vers lui, si par la foi nous considérons toutes ces circonstances comme faisant partie de son éducation pour nous, si par la foi nous nous opposons au diable ou nous opposons au diable les promesses de Dieu à notre égard, la vérité de son amour et de sa fidélité éternelle, la vérité de ses soins, alors on pourra résister au rugissement paralysant du lion qui rôde autour de nos échecs, de nos faiblesses, de nos soucis. Avec la foi, on rentre en résistance, mais non pas dans une sorte de passivité stoïque, on attend que ça passe, où l'on se recroqueville dans sa coquille spirituelle, mais dans un acte conscient et volontaire où l'on place le Seigneur Tout-Puissant en plein cœur de nos combats intérieurs. Dans Éphésiens 6, il est parlé de l'armure du chrétien, et on parle du bouclier de la foi, qui vient éteindre les traits enflammés, les flèches enflammées du malin. Bon, les flèches, elles vont sur le bouclier et elles finissent par s'éteindre. Ces flèches font plouf avec le bouclier de la foi. Si notre vie est orientée vers le Seigneur, alors les flèches du malin font plouf. J'ai connu en Belgique, dans mes jeunes années, dans les années 90, un jeune Congolais qui s'appelait Valentin. Je vous ai peut-être déjà raconté son histoire, mais c'est une des personnes qui m'a peut-être le plus marqué dans mes visites. C'était un bel homme, ce Valentin, 1m90, jeune encore, un chien sportif, joueur de volley. Mais à l'université de Lubumbashi, en mai 1990, les hommes de Mobutu ont tiré dans la foule des étudiants, au hasard. Et Valentin a reçu une balle dans sa moelle épinière. Il est tétraplégique et à l'époque, il habite dans un appartement médicalisé à la Cité de l'Amitié, pas loin de notre église à Stockel, à Bruxelles. Et je lui rends visite au milieu des années 90 et il me dit à chaque fois, je m'en souviendrai toujours, « Tu sais, Eric, Dieu est grand. » Assis sur sa chaise roulante. « Dieu est grand. » Et Valentin, et j'étais tellement encouragé en tant que jeune pasteur par la foi de Valentin. Valentin tenait ferme. Il résistait. Avec sa foi aux attaques de l'ennemi qui le poussait certainement à l'abandon et au désespoir. Mais Valentin savait par la foi que sa vie était entre les bonnes mains de Dieu. Il n'était pas non plus dans le déni, hein. Il ne disait pas « il n'y a pas de mal, Mobutu et ses sbires, ils ne disaient pas il n'y a pas de mal, ils disaient Mobutu et ses sbires sont coupables de crimes contre l'humanité, et les Belges avaient laissé faire à l'époque. Il ne s'agit pas d'innocenter tout le monde, mais la foi en ce Dieu puissant lui permettait de résister dans son être intérieur, de ne pas sombrer dans l'amertume, dans la résignation, le reniement. « Dieu est grand !» disait Valentin sur sa chaise roulante. Et Valentin était en mode survie, mais il était bien équipé. Il était un résistant de la foi. Et nous ne sommes pas dans la même situation que Valentin, ni exactement dans la même situation que les destinataires de la lettre que Pierre écrit, mais nous avons certainement nos chemins difficiles, nos randonnées un peu chaotiques. Peut-être sommes-nous en mode survie, peut-être allons-nous être certainement en mode survie à un moment donné. Je vous propose de penser à ce mode, à ce kit de survie à prendre, et c'est notre dernière diapo, avec cette confiance que Dieu prend soin de nous, qui nous appelle à nous décharger, cette vigilance par rapport à l'adversaire qui cherche à nous séparer, et cette résistance, résistez-lui dans le domaine de la foi d'une foi ferme. Et pour nous approprier cette parole de Dieu, je vais inviter Pascal à s'avancer à jouer un morceau de piano. Et je vous invite à réfléchir à votre kit de survie. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos? Des cotons-tiges? De la ouate? Ou des trucs qui comptent? Ou des trucs qui vous permettent de survivre dans ce monde compliqué, voire très compliqué. Quel est le domaine que j'oublie, où je suis peut-être le plus faible et où j'ai besoin de la grâce de Dieu ?